Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Je ne sais pas si on convoiture ou pas ici dans le studio d'Europe 1, mais en tout cas, on est avec l'essayiste Jeannette Bougrabe, avec l'adjoint au maire de Colombes, Europe Écologie Les Verts, Alexis Bachelet, et le conseiller politique de Valérie Pécresse. À force d'ajouter des lignes à sa carte de visite, Patrick Caram, à la fin, on ne sait plus qui vous êtes.
Alors Guadeloupéen, ça me suffit parfaitement. Bon, français, amoureux de la France et Guadeloupéen.
Voilà. Vous voulez qu'on parle de l'école? L'école souffre, les profs s'essoufflent, je disais, et appellent à la grève. Deux syndicats d'enseignants veulent débrayer jeudi prochain, le 13 janvier. Ils dénoncent la pagaille avec le protocole, les trois tests en quatre jours pour les élèves. Protocole assoupli depuis ce matin. Désormais, au premier cas positif, en moins d'une semaine, la batterie de test ne sera plus nécessaire. Cela dit, ça ne règle pas le problème, disent les enseignants. Le ministère tablant, lui, sur des remplaçants en cas de pénurie de profs, même en allant chercher des profs retraités. Parole de prof tout d'abord, Guylaine David du SMIPP.
On appelle à la grève le jeudi 13 janvier pour obtenir des conditions sécurisées pour l'école actuellement. On a un protocole qui est inapplicable dans les écoles, hein, qui met en danger les enseignants, les élèves, mais aussi les familles. On voit bien qu'on a des contaminations, mais qu'on ne fait rien pour circonscrire les contaminations parce que les tests faits à J+2, J+4 ne permettent pas d'être sûr de ne pas avoir de positivité à l'intérieur de l'école. Et on a l'impression que le ministre n'entend pas cette réalité du terrain et que les enseignants n'en peuvent plus. Ils tiennent à bout de bras à l'école depuis mars 2020. C'est vraiment pour eux très très difficile à gérer. On a peur que l'école craque et que les collègues lâchent, ne tiennent pas. Donc on a des conditions de travail qui sont extrêmement dégradées.
Parole de prof, parole de parents aussi.
Donc mercredi, il a fallu que je me procure des autotests pour pouvoir les remettre à l'école le lendemain. Autotests qui sont très très compliqués à trouver en ce moment, puisque les pharmacies sont toutes en rupture de stock. J'ai dû en faire 3 ou 4, sans exagérer, avec les enfants, donc un peu moins rapide. Ça m'a pris presque 2 heures de mon temps. Et c'est pénible et c'est toujours aussi compliqué de s'organiser professionnellement en fait.
J'ai pris 2 heures sur mon temps pour faire le tour des pharmacies. On utilise notre énergie pour s'adapter à ce protocole, alors que si l'éducation nationale les avait, ces autotests, on ne serait pas là en train de courir tout le temps, quoi.
Parole de prof et de parents, sachant qu'on a plein de témoignages effarants de parents. On a une maman qui nous a contacté tout à l'heure, qui nous racontait que sa fille avait le nez en sang à cause de tests répétitifs, qu'elle pleurait à la vue d'un test et que désormais cette maman attendait que ses enfants aient des symptômes pour éventuellement les tester. On va où là comme ça dans cette école?
Ça va pas parce qu'en réalité, en fait, on aurait dû prévoir, on savait que la vague Omicron était très contagieuse, c'est qu'on aurait dû mettre du matériel au sein des écoles. C'est-à-dire qu'on fait peser la charge en réalité sur les familles. C'est pas évident parce que certaines familles n'ont pas nécessairement, puisque la consigne de la gratuité des autotests, certains pharmaciens ne l'appliquent pas. Il y a une pénurie. Et donc,
la plupart des pharmacies n'ont pas d'autotests. Ils n'en ont pas.
Donc,
ils
du coup, il n'y en a plus. Et le protocole J0, enfin J0, J+2, J+4, etc. est effectivement beaucoup trop lourd. Et donc pendant ce temps-là, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Donc les parents prennent sur leur temps de travail, parce que c'est ça en réalité. Et c'est vrai que sur les enfants, c'est difficile. Et ensuite, il y a la question des enseignants. La question des enseignants, c'est que le Premier ministre a annoncé que les masques FFP2 arriveraient en fin du mois de janvier, alors qu'on nous dit que le pic d'Omicron va arriver au milieu du mois de janvier. Donc il y a quand même un problème. Donc, et de même sur les questions en fait, de purificateurs d'air, etc. Les écoles sont dans un état, en réalité, le patrimoine immobilier qui n'appartient pas à l'État. Là, il ne faut pas rejeter la faute sur l'État.
Il appartient à qui?
Ça dépend. Les écoles primaires, c'est les communes, les collèges au département et les lycées aux régions. Et donc, il devrait y avoir un effort et une concertation avec les collectivités locales pour, en tout cas, accompagner ou soutenir l'État qui n'a pas anticipé la nécessité d'avoir des masques FFP2. Et c'est vrai que la réponse du ministre en disant « on va attendre la réponse du conseil scientifique » n'est peut-être pas le bon message. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les enseignants sont dans cette situation-là. Et l'appel à la grève peut se comprendre, parce que déjà en période normale, les remplacements de profs absents ne se fait pas nécessairement. Et vous avez des classes qui se retrouvent sans professeur pendant plusieurs semaines. Alors là, avec les règles de confinement. Et c'est un peu contradictoire avec la politique du vaccin et de se dire que le vaccin allait protéger. Voilà. Et c'est là où il y a une sorte de contradiction entre le message du gouvernement. Voilà.
Patrick Caram.
Ouais, moi, ça me donne l'impression d'une immense désorganisation, improvisation. Vous savez que le ministre de l'Éducation nationale a annoncé sa batterie de mesures quand la veille de la rentrée. Rien n'est prévu, rien n'est programmé. On a l'impression que là, on est en absurdie. Tout repose, et tout repose, vous avez raison de le signaler, Jeannette, tout repose sur les parents, sur les enseignants. Et évidemment, les écoles cratent, les parents sont en crise de nerfs, vous travaillez chez vous, on vous appelle, et quand vous avez des enfants dans plusieurs écoles, vous devez courir à droite et à gauche, faire la queue dans les pharmacies. Aujourd'hui, je suis passé devant une pharmacie, je pensais être devant la CAF. Un jour de paye. Pardon, c'est pas.
Il y a d'autres analogies. Moi, je pourrais vous parler des.
Ou en Pologne, dans les années 80, pour acheter du pain, c'est très bien.
Ou alors en Pologne, quand on faisait la queue, effectivement, que j'ai connu à cette époque-là, puisque j'étais dans ces pays-là, pour avoir, effectivement, s'acheter des choses et ou avoir des tickets. Donc, si vous voulez, là, il y a quand même un sujet. Valérie Pécresse a proposé quelque chose de simple. Il aurait été sage de l'écouter. Repousser d'une semaine la rentrée scolaire. Une semaine. La fois précédente, souvenez-vous, quand elle avait fait cette proposition, on lui a dit non et finalement ils l'ont écouté. Pourquoi Blanquer joue les gros machos?
On a dit qu'on n'était pas dans l'insulte, vous l'avez dit vous-même, Patrick Caram.
Non, moi j'ai pas dit que c'était un imbécile et j'ai pas dit que je veux l'emmerder.
Mais ça fait deux.
Mais être macho, certains s'en glorifient. J'ai l'impression que Blanquer s'en glorifie parce qu'il décide seul. Il décide tout seul. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas les syndicats. Pardon de vous le dire. Les syndicats ont tiré la sonnette d'alarme. Les enseignants n'en peuvent plus sur le terrain. Font remonter dans les rectorats les informations qui sont extrêmement complexes et extrêmement préoccupantes. Les rectorats font remonter au ministère les informations. Et j'ai l'impression que ça s'arrête à la strate intermédiaire et que ça ne remonte pas jusqu'au ministre. À moins que ça lui remonte et que lui veut avoir raison contre la France, contre les Français, contre les enseignants qui sont à peu près 900 000. Aujourd'hui, vous avez 9200 classes fermées. Près de 50 000 élèves qui sont touchés par le Covid, et je ne parle pas du nombre de cas contacts. Imaginez le désastre pour les familles.
Alexis Bachelet.
D'abord, il faut rappeler que, effectivement, la solution de facilité pour le gouvernement, ça serait de fermer les classes. Bon. Moi, en tant que parent, et je sais que c'est une situation compliquée à gérer pour les enseignants, mais malgré tout, je préfère continuer à déposer mes enfants le matin à l'école, parce qu'on a déjà souffert pendant le premier confinement, où on a fait l'école à la maison, on était tous enfermés de toute façon, donc on n'avait pas le choix. Et c'est vrai qu'ensuite, il y a eu un débat, et que ce gouvernement, et ça on peut le mettre à son crédit, c'est pas le cas de tous les gouvernements européens ou dans le monde, a décidé au mois de mai qu'on réouvrait les écoles, alors même que la pandémie, on savait qu'elle n'était pas terminée. Mais c'est vrai que là, cette affaire du nouveau protocole lié à Omicron, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que d'abord, comme ça a déjà été dit, l'information, elle est donnée quand même juste la veille au soir de la rentrée. Dimanche soir, à minuit, il y a un mail qui arrive, vous avez le protocole quand vous êtes enseignant. Moi, je comprends que ça énerve un petit peu. Le matin, à 7h, on prend connaissance du protocole qu'on va mettre en œuvre à l'ouverture de l'école à 8h. Bon, c'est vrai que là, bon, franchement, je ne sais pas comment on fait quand on est au gouvernement pour ne pas anticiper le fait que la rentrée scolaire était le 3 janvier et que les dates, elles sont connues depuis des mois et des mois. Donc, ce n'était quand même pas difficile d'envoyer le mail plus tôt et de faire en sorte qu'on ait l'information. Ensuite, qu'est-ce qu'on découvre? Et d'ailleurs, je note que le gouvernement a quand même réagi puisqu'ils ont assoupli le protocole aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout le monde est furieux. Les enseignants.
C'est parce qu'il y a pénurie de tests.
Parce qu'il y a plein de problèmes. Il y a l'histoire de la pénurie de tests.
C'est pas que tout le monde est furieux.
Mais bien sûr qu'il y a des remontées. Et puis la journée de grève, elle est liée à ça aussi.
Oui, bien sûr. Oui.
Elle est liée au fait que les enseignants disent arrêtez, on peut plus là. Parce que quand même l'histoire, il faut le rappeler, Jean-Michel Blanquer, jusqu'à ce matin, il était sur une chaîne pour essayer d'expliquer son protocole. Vous expliquez, alors le jour 1, si vous avez un cas Covid, c'est tout le monde fait le test. Puis à J+3, on refait l'autotest, puis à J+5. Donc déjà, la présentatrice, elle dit, attendez, vous allez nous répéter tout ça parce qu'on a raté. Et il dit, oui, et puis de toute façon, les autotests, comme évidemment les autotests sont faits à la maison, il faut faire une attestation et doter l'enfant de l'attestation. Donc ça veut dire que l'enseignant, il faut qu'il demande à chaque enfant l'attestation, etc. Et il y a même des gens qui disaient, dans les médias, de toute façon, nous, les attestations, il n'y a pas d'autotest. S'il faut faire une attestation, on fera une fausse attestation. Arrêtez, non, je ne sais plus. La coupe est pleine. Tout le monde a compris que c'était un protocole inapplicable, que ça mettait les parents dans des difficultés d'aller chercher
les autotests,
etc.
La solution.
Non, mais la solution, c'est de faire en sorte d'isoler l'enfant qui est testé positif, et ensuite de demander éventuellement un test aux autres enfants de la classe si on veut effectivement réouvrir immédiatement la classe, et puis c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous dis, on ne va pas demander aux gens de se tester. Parce que moi, je vais vous dire, l'autotest avec mes enfants, je l'ai fait.
Ah. Et alors?
Je l'ai fait.
Oui, et donc?
Eh bien, ce n'est pas une sinécure.
C'est ce que disaient les mamans qu'on a entendues.
Oui, ouais, je vous confirme.
Oui, vous confirmez. Mais,
non, mais je pense que, compte tenu de la gravité de la situation et du caractère exceptionnel, je pense qu'on devrait donner les moyens au sein des écoles de faire, comme ça s'est fait il y a déjà quelques semaines, des tests salivaires. C'est-à-dire que la solution, vous savez, vos enfants ont demandé
mais
de signer...
Mais on a
signer...
dit qu'ils étaient inefficaces.
Oui, mais à un moment, enfin, c'est quand même, ce sont des enfants, leur enfoncer un coton-tige à la fois repuie.
Je vous dis, il y a une maman, qui nous a parlé et qui nous a dit, voilà, écoutez,
moi j'ai une fille de 3 ans, je n'ai pas envie de le faire. Et on ne l'a pas mise à l'école. Voilà, je vous le dis, moi je suis très clair. Ouais. Elle a pris 15 jours de vacances de plus. On ne veut pas la mettre à l'école parce qu'aujourd'hui on ne supporte pas les conditions dans lesquelles.
Vous êtes sans doute pas le seul. Le problème, c'est qu'on a l'école de la République à l'âge de 3 ans.
On a le sujet, c'est pour ça qu'il fallait reporter d'une semaine, le temps de poser tout ça, puisqu'ils n'étaient pas prêts, puisqu'il y avait une impréparation du gouvernement, puisque le matériel n'est pas là, puisque les pharmacies sont débordées, parce que c'est le sujet. Vous devez vous-même courir à la pharmacie, vous devez courir de pharmacie en pharmacie, les pharmacies sont débordées. Et puis vous avez des médecins, les ATSEM, vous avez des enfants qui ne mangent plus parce que les ATSEM, vous voyez, qui sont chargés de leur donner. La nourriture, de les encadrer, ben, ils sont qu'à contact ou ils sont malades. Résultat, vous devez venir les chercher. Bref, vous êtes dans une panade la plus le constat, c'est qu'il fallait prendre le temps d'ouvrir pendant une semaine. La rentrée scolaire, on l'aurait rattrapé.
Est-ce que c'est pas reculé pour mieux sauter, Patrick?
Non, parce que, écoutez, vous savez... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans d'autres pays avec le variant Omicron? Parce que moi, je ne suis pas tellement d'accord avec l'idée qu'il faille piquer des enfants. Moi, je vous le dis. Moi, je pense au contraire qu'il faut laisser cet Omicron circuler. C'est une sorte, finalement, de vaccination un peu. Mais c'est ce que disent les experts. Je l'ai vu aux États-Unis. Je l'ai vu en Afrique du Sud. Je le vois un peu partout. Donc aujourd'hui.
Vous n'êtes pas le seul à le dire.
Mais beaucoup le disent aujourd'hui. Donc l'idée, c'est malgré tout de se dire bon, voilà, il y aura un pic et ça va partir rapidement parce qu'on va atteindre l'immunité collective.
Donc on sera immunisé contre l'Omicron, mais pas contre les autres.
On gagne. Oui, mais l'Omicron, en fait, vous immunise aussi contre d'autres variants selon les. Selon ceux qui... Écoutez, moi j'ai vu un grand épidémiologiste américain sur CNN expliquer que Omicron, finalement, c'était le cadeau de Noël. C'était le cadeau de Noël parce que ça va peut-être permettre de débarrasser l'humanité de cette peste qui aujourd'hui est en train de nous empoisonner.
Et comme il est américain, vous dites qu'il a raison?
Non. Alors là, vous êtes très fort. Je fais d'abord confiance aux Français, figurez-vous. Et je fais d'abord confiance à mon pays. N'oubliez pas que je suis un patriote. Et que mon drapeau, il est pas dans ma poche. Il est toujours dehors parce que je suis fier d'être français. Non, je le dis simplement. On écoute les chercheurs qui viennent, qui travaillent sur cette question. Et tous, il semble qu'il y ait une sorte de consensus aujourd'hui. Maintenant, sur les gamins, est-ce que je pose la question, est-ce que vous avez envie de vacciner votre gamine qui a 6 ans? Est-ce que vous avez envie qu'elle mette un masque? Est-ce que vous avez envie de faire en sorte que
le masque est obligatoire, Patrick?
Oui, mais c'est un problème.
Expliquer à mes enfants pourquoi.
Expliquer ce que vous voulez.
Bah non, il faut expliquer. Il faut être responsable.
C'est un débat. Il a le droit d'avoir son avis.
Moi, je vais vous dire. Vous avez le droit parfaitement. C'est votre droit de le dire. Moi, je considère qu'un enfant, il vous regarde. Il a besoin de vous voir bouger. Il a besoin de voir vos mimiques. Il a besoin, quand vous faites de la pédagogie, vous avez
on
la
est
pédagogie.
Tous d'accord.
C'est pas simplement un robot, si vous mettez des robots et vous faites la classe avec un robot.
On doit parler d'organisation du service public en réalité. Là, on peut avoir chacun nos opinions personnelles. Aujourd'hui, c'est la question de la continuité du service de l'éducation nationale avec une obligation scolaire. Et on sait très bien, et là-dessus, c'est un dernier point que je dois partager avec le président Macron, c'est que je pense que ça a été désastreux le fait de ne pas envoyer pendant plusieurs semaines des enfants. C'est souvent les enfants les plus défavorisés et qui payent...
Nous sommes d'accord, ce n'est pas la question.
C'est que aujourd'hui, je pense qu'on doit aménager, alors peut-être que les collectivités locales et peut-être que le Premier ministre devrait demander une sorte de, après tout, les locaux comme l'immobilier appartient aux collectivités locales, c'est qu'aujourd'hui, on devrait en tout cas permettre de donner aux enseignants des masques FFP2, ça les va rassurer, je pense.
Ça, c'est et l'éducation nationale, ça, pour les enseignants.
Mais c'est important, parce qu'il y a du gel hydroalcoolique. On sait que dans certaines écoles, il n'y en a pas.
On fournit, Jeannette, dans les écoles. Dans les collectivités locales, on a mis à disposition tout un tas de matériel.
La région, aujourd'hui, aide les lycées.
Et vous êtes conseiller régional.
Aide les lycées, aide aussi les maires à se doter et à doter leurs écoles de matériel.
Donc, en gros, aujourd'hui, c'est une organisation, on va dire, comme de quasi-militaire, en réalité, de mettre en fait dans un lieu unique en réalité les moyens en tout cas de permettre à ces enfants de continuer. Je pense que c'est important pour eux. Le masque, ils y sont quand même assez habitués et ça, on doit le faire et pas attendre la fin du mois de janvier, je crois que c'est ça. Et aujourd'hui le problème, c'est qu'on se retrouve dans la même situation qu'il y a quelques mois, à savoir une pénurie de masques, une pénurie de tests, et donc on se dit là...
Mais on fait quoi ? On arrête les tests ?
Mais non, on n'arrête pas les tests, ça veut dire que l'État doit se débrouiller pour, comme a fait l'Allemagne, comme ont fait d'autres pays, de
pour
pouvoir...
Pour avoir plus de tests.
Bah, bien sûr.
Même si ça fait mal au nez et que ça...
Moi je pense qu'il y a... Enfin,
qu'est-ce tests... que vous répondez à, justement, aux parents qui disent mais ça détruit les nez des gens,
non,
des enfants.
Je vais vous dire, j'entends certains médecins, et je pense qu'ils ont un peu raison, c'est qu'on doit tester un peu trop. Et c'est-à-dire, moi, j'ai je pense que le J0, le J+2, le J+4 est sans doute trop lourd.
C'est pour ça que ça a été allégé. Donc vous êtes d'accord avec la formule allégée ?
Oui, mais elle est encore très lourde. Je trouve qu'elle est encore très lourde.
C'est quoi la formule allégée ? Vous êtes capable de la dire là ? Allez-y.
Ben oui,
non, mais regardez pas. Vous l'avez dit tout à l'heure.
Mais c'est un test au lieu de...
Non.
Dites-le-moi.
Ah non, mais justement. Alors toi, vas-y, Alexis Bachelet, on t'écoute.
On n'est pas en classe, là. On va pas faire l'interview.
Alors tu vois, le professeur Karam, allez-y.
On regarde les deux tests.
Incompréhensible.
On garde la batterie de tests. La seule chose, c'est qu'il y a un nouveau cas. Voilà. En fait, on ne refait pas tous les tests.
Alors, c'est ça le problème.
On ne refait pas J+3, J+4. Mais non, mais voilà.
C'est pas rationnel.
Bien sûr, Patrick, mais on est d'accord. C'est pour ça que les enseignants disent, mais au secours. Parce que dans ce cas-là, on va où ? Parce qu'on ne sait pas si l'enfant est suffisamment testé.
Là, vous faites vos trois tests. Et puis après, si vous avez un nouveau cas, vous dites, on n'a plus besoin des trois tests. Alors, pourquoi on les avait besoin ?
Parce qu'on
en avait besoin avant.
Je pense que la pédagogie est importante parce que la politique vaccinale fait que quand même, les conséquences sont quand même moins dangereuses avec Omicron.
Mais les enfants, ils risquent quoi ? Pas grand-chose, finalement. Vous le savez bien. Vous savez bien que ça touche une catégorie de population plus âgée ou bien qui ont des comorbidités. Ce que je veux dire, c'est qu'on oblige des gamins à se vacciner. Moi, je suis... Alors, je vous le dis. Et là, je m'exprime en mon nom propre. Hein. Mm-hmm. Notez que je ne suis rien sur ce plateau. Seulement
jamais
Patrick Karam,
un
Guadeloupéen. Rien. Moi, je considère... Je vous le dis, je ne laisserai pas ma gamine mineure se faire vacciner. Je ne les laisserai pas toucher à ma gamine. Vous voyez, moi, je suis vacciné 3 doses. J'ai fait vacciner mes parents. J'ai fait vacciner mes sœurs. Mon fils, je lui ai conseillé de se vacciner parce qu'il a, lui, une propension à choper le Covid. D'ailleurs, malgré son vaccin, ça fait le deuxième Covid qui se tape. Donc, je le fais parce que je sais la fragilité des uns et des autres.
Mais
quand vous avez des gamins... Quand vous avez des gamins de 5 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, quel vaccin vous allez leur donner ? Puisque
mais
ça
y a
n'a
pas de débat,
un,
Patrick. Le vaccin n'est pas obligatoire de toute façon.
Non mais le problème...
Ni pour les adultes, donc a fortiori pas pour les enfants.
Non, mais vous voyez bien que Macron insulte ceux qui ne se vaccinent pas. C'est donc bien qu'il considère qu'il faut le rendre obligatoire. Ouais, simplement, il a peur des conséquences.
Je suppose qu'il ne pense pas aux enfants.
Parce qu'à partir du moment où vous rendez le vaccin obligatoire, eh bien vous assumez les conséquences juridiques et judiciaires de cette obligation.
Et c'est ça qu'il ne veut pas. Vous ne répondez pas au mal-être des enseignants. C'est-à-dire qu'on va avoir en quelques jours un appel à manifester des médecins, puisqu'il y a le collectif de 11 organisations syndicales qui appellent à manifester dans le cadre du milieu médical, de la santé. On a les enseignants qui vont faire grève, et c'est vrai que ce n'est pas le moment, alors qu'on est en pleine crise sanitaire. Et donc, il y a quand même un moment.
C'est qu'ils se sentent mal.
Non, je suis tout à fait d'accord. La seule chose, c'est qu'on se focalise sur le.
Pas.
Non, je n'ai pas dit les critiquer. J'ai juste dit qu'il est important pour le gouvernement et en tout cas de pouvoir en tout cas les accompagner, de les entendre et qu'il ne s'agit pas d'embêter ceux qui ne sont pas vaccinés. Aujourd'hui, il faut aussi s'occuper de ceux qui se sont fait vacciner, qui travaillent et qui estiment que les conditions de sécurité ne sont pas là.
Et eux-mêmes vaccinés qui peuvent avoir la Covid, qui peuvent se retrouver, etc. Mais le sujet, si vous voulez, c'est qu'il y a eu un manque de concertation. Vous avez un ministre qui a peut-être je n'en sais rien, parti en vacances pendant toute la période de Noël. Le sujet, c'est qu'il aurait fallu profiter de cette période, eh bien, pour discuter avec les syndicats d'enseignants qui, quand même, eux, savent ce qui se passe dans les établissements,
qui ont vécu toutes
les
vagues,
mais discuter avec les collectivités.
Ils ont été reçus au ministère.
Oui, mais vous êtes reçus de manière formelle,
non, par le
et on
ne
tient pas compte. Ce n'est pas une négociation, ce n'est pas une discussion. Vous êtes reçus, et puis après vous partez, et vous ne retenez plus rien de ce qui a été dit. Non.
Pourquoi est-ce que vous dites ça? Vous basez ça sur votre expérience personnelle?
Mais bien évidemment. Vous savez, quand on est en situation et en responsabilité, on ne doit pas se dire qu'on a la vérité révélée. On a des cabinets qui sont là, en fait, pour vous casser l'information qui vient de la base. C'est juste ça.
Pourquoi?
Les cabinets protègent les ministres. C'est ça.
En tout cas, Jean-Michel Blanquer a reçu les syndicats.
Oui, il les a reçus, mais qu'est-ce qu'il les a reçus?
Mais les ministres ne sont pas sourds, ils entendent les revendications des syndicats.
Alors, Blanquer, s'il n'était pas sourd, pourquoi Blanquer a...
Jean-Michel Blanquer. Monsieur le ministre.
Monsieur le ministre, si vous voulez. C'est...
Bah pourquoi, oui, je vous renvoie la balle, mon vieux.
Enfin, pourquoi a-t-il, Jean-Michel Blanquer, pourquoi a-t-il cette espèce d'a priori contre les syndicats? Quand ils vous font remonter des informations, quand ils vous disent « on n'est pas prêt », quand ils vous disent « il nous manque du matériel », quand ils vous disent « attention, le système va craquer », quand les collectivités vous disent « mais discutez avec nous, dialoguons, essayons de trouver une solution, on a 15 jours pour trouver une solution », et que pendant ces 15 jours-là, vous ne faites rien, et que la veille au soir,
ça,
opinion. Vous dites, mais voilà ce qui va vous impliquer. Il y a un problème.
Caram, c'est votre opinion, ça, on n'en sait rien. On est dans une fiction,
région,
là.
La région n'a pas été consultée. Je pense que la mairie de Paris n'a pas été consultée lorsqu'on a dit qu'il fallait mettre des masques dehors.
Alexis Bachelet,
etc. Je vous le dis, le gouvernement a un problème.
Vous le dites,
il n'y a pas de concertation.
Vous le disiez, mais Alexis Bachelet voulait aussi en placer.
Donc j'ai écouté attentivement l'ami de Jean-Michel Blanquer, Patrick Caram.
Ah, mais je suis son ami. Compris,
Jean-Michel Caram, vous voulez dire.
Ou Patrick Blanquer.
C'est ça. Ils sont interchangeables.
Non, mais de toute façon, le sujet, ce n'est pas le ministre ad hominem. Le ministre,
il est
en contact sur ce sujet-là avec son homologue à la santé, Olivier Véran, parce qu'en plus, Olivier Véran avait déjà fait le teasing des annonces de Jean-Michel Blanquer dans le JDD la veille. Il avait dit il y aura un nouveau protocole à l'école et il sera détaillé par mon collègue Blanquer demain. Donc ils étaient j'en avais parlé et ils en parlent aussi avec le Premier ministre et je suppose avec l'Élysée. Donc c'est pas le malheureux Jean-Michel Blanquer, même s'il est chargé, de défendre la mesure et de le porter, qui a décidé tout seul. Je pense que derrière, c'est le gouvernement et l'Élysée, et qu'effectivement, là où il y a un problème, c'est que je pense qu'ils ont assez rapidement compris, d'abord, ce qu'ils ont vu, Jean-Michel Blanquer sur les plateaux n'arrivait pas à expliquer le protocole, et qu'ensuite, dès les premiers jours d'ouverture de classe, lundi, il y a eu des remontées de terrain.
Les hommes et les femmes les plus intelligents de France, parce que finalement, c'est comme ça qu'ils se voient.
Si la technocratie française prenait toujours les bonnes décisions,
les hommes et les femmes les plus intelligents de France, au plus haut sommet de l'État, n'ont pas compris que ce qu'ils allaient mettre en place, eh bien, c'était absolument pas applicable.
Alors,
je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas eu ce dialogue. Cette ouverture de dialogue. Bon. Moi, j'appelle le gouvernement, maintenant, à arrêter de retirer les ornières et à se dire qu'on n'a pas la vérité révélée. Et dialoguons, ouvrons la discussion.
Merci à vous trois. Merci à l'essayiste Jeannette Beaugrabe. Merci à l'adjoint au maire de Colombes, Europe Écologie Les Verts, Alexis Bachelet. Et monsieur le conseiller politique de Valérie Pécresse, vice-président de Libre et vice-président de la région Île-de-France, Patrick Caram.